Christ est ressuscité. Et vous me répondez ? Ah, alors on la refait. Vous avez entendu les paroles ? Christ est ressuscité. Oui, alors on n'est pas tout à fait sûr hein, en vous entendant. Il faut un petit peu, voilà. On est le matin de Pâques, on ne fait pas le vendredi saint aujourd'hui. On est dans le matin de Pâques. Alors voilà, on est dans cette joie de la vie. Et ce matin, je suis très heureuse de vous accueillir au nom de ce Christ ressuscité, dans ce lieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous toutes et tous. Ce matin, nous allons donc fêter cette fête si importante, fondation du christianisme, et nous allons pouvoir chanter, prier ensemble et méditer des textes qui posent encore beaucoup de questions à notre époque sur cette question de la résurrection avec l'évangile de Jean, avec lequel nous avons médité toute cette semaine. On connaît le marathon de Paris, il y a le marathon de Pâques, puisque cette semaine nous avions le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint cette année, et aujourd'hui, ce matin, nous sommes là au moment de redire que la vie a vaincu la mort. Alors je vous invite à entrer dans ce temps de culte et j'accueille aussi toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet, qu'ils soient avec nous dans cette joie de la résurrection. Et je remercie Sarah qui est à la tribune aujourd'hui avec nous. Je vous invite à prendre le psautier que vous avez reçu à l'entrée du temple. Et au début, pour celles et ceux qui ne sont pas encore habitués, vous avez toute la liturgie pour pouvoir suivre et chanter. Je vous invite à vous lever. Nous louons le Seigneur avec cette méditation qui est devenue par la suite un poème qui est devenu une chanson. Je dansais le matin lorsque le monde naquit. Je dansais entouré de la lune, des étoiles et du soleil. Je descendis du ciel et descendais sur la terre. Et je vins au monde à Bethléem. Dansez où que vous soyez, car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Je mènerai votre danse à tous, où que vous soyez, dit-il, je mènerai votre danse à tous. Je dansais pour le scribe et pour le pharisien, mais eux n'ont voulu ni danser ni me suivre. Je dansais pour les pécheurs, pour Jacques et pour Jean. Eux m'ont suivi, et ils sont entrés dans la danse. Je dansais le jour du sabbat. Je guéris le paralytique. Les saintes gens disaient que c'était une honte. Ils m'ont fouetté, m'ont laissé nu et m'ont pendu bien haut sur une croix pour y mourir. Je dansais le vendredi quand le ciel devint ténèbres. Il est difficile de danser avec le démon sur le dos. Ils ont enseveli mon corps et ont cru que c'était fini, mais je suis la danse et je mène toujours le ballet. Ils ont voulu me supprimer, mais j'ai rebondi plus haut encore, car je suis la vie qui ne saurait mourir. Je vivrai en vous, si vous vivez en moi, car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Ainsi soit-il. Je vous invite à chanter notre louange avec le cantique 92, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté de Dieu telle qu'elle nous est présentée dans la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons devant Dieu. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu connais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun, comme un secret, que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Fais-nous grâce ». Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur chacun de nous. Le Seigneur nous redit sa grâce et dit à chacun « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Nous confessons ensemble notre foi avec ces mots proposés ce matin. Toi, le vivant, tu es sorti du tombeau, tu t'es relevé de la mort. Ni la haine, ni la souffrance, ni le mal n'ont pu t'anéantir. Au-delà de la mort, le Père t'a tendu la main et la joie de Pâques rayonne sur ton visage. Nous croyons en toi, toi le ressuscité, toi notre frère en humanité. Apprends-nous à vivre, nous aussi, en ressuscité dès maintenant, avec toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous lirons donc dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive, entrant dans le tombeau. Il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore montée vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Je vous invite à prendre le cantique 218 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2, et nous nous levons. Nous prions ensemble et nous prions avec ce qu'écrit Martin Luther dans ses préfaces à la Bible. Il écrit « Là où les œuvres et l'amour ne jaillissent pas, la foi n'est pas vraie, l'Évangile n'a pas encore de prise et le Christ n'est pas vraiment connu. » Voilà. Maintenant, plonge-toi dans les livres du Nouveau Testament afin que tu saches les lire de cette manière-là. Amen. Le récit de la résurrection dans l'évangile de Jean pourrait passer à première vue comme un témoignage digne de confiance absolue et sur lequel des siècles de doctrine chrétienne se sont enracinées, donc d'une certaine façon intouchable. Mais raconter l'histoire du tombeau vide ne va pas de soi. Et c'est ce geste scripturaire qu'il nous faut peut-être reconsidérer en ce matin de Pâques. Que lisons-nous quand nous lisons un récit de résurrection? Dans chaque évangile, il y a un récit différent. La communauté de Jean, qu'on a coutume d'appeler la communauté joannique, écrit l'histoire qui la fonde. C'est-à-dire que ce texte est vraiment la fondation de ce qui rassemble cette communauté. Il ne s'agit pas ici de l'histoire de Jésus, d'une vie de Jésus qui viendrait s'ajouter à toutes les vies de Jésus que l'on a voulu écrire en reconstituant ou en essayant de le faire, un Jésus historique dont on ne connaît que très peu de choses. Mais il s'agit de l'histoire de la foi de toute une communauté de croyants qui ont décidé de se réunir à la suite d'un maître et d'en faire un récit particulier. Écrire l'histoire n'est jamais neutre. Et nous constatons aujourd'hui de façon très manifeste et assez douloureuse que le récit historique est toujours un enjeu pour les pouvoirs en place. Vous l'avez sans doute entendu dans toutes les informations que nous recevons du monde entier et particulièrement de quelques États qui nous préoccupent en ce moment. En ce moment même, dans de grandes puissances, on pourrait penser que même si ces puissances ne se construisent pas sur les mêmes racines idéologiques, elles usent pourtant des mêmes armes pour réviser l'histoire et aller jusqu'à interdire que les universités et autres lieux de recherche emploient certains mots. Il y a aujourd'hui des mots interdits dans la recherche. Certains récits aussi, certaines idées. Pour développer la pensée, ils ont choisi de faire des trous, de retirer des mots. Là où l'histoire s'écrit, l'idéologie n'est jamais loin. Et il est très difficile de s'en garder, autant que nous sommes. Non pas que les historiens soient de mauvaise foi à chaque fois, quand ils tentent de restituer l'histoire d'un pays, d'un peuple ou d'une nation, mais parce que le simple fait de choisir entre ces trois mots, pays, peuple ou nation, nous oblige à partir de points de vue très différents et influence forcément la recherche et le récit que l'on fera. Il n'y a pas d'histoire pure. Et le point de vue que l'on adopte pour parler des faits est déjà une prise de parti qui influencera le récit que l'on construit. Et l'école joannique qui a écrit l'évangile en est consciente. Par exemple, ce matin, je me place moi-même consciemment d'un point de vue critique à l'égard des textes bibliques, avec l'intention de comprendre comment actualiser les témoignages qui parlent d'un contexte qui n'est plus du tout le nôtre. Comment lire la résurrection aujourd'hui sans emprunter l'issue de secours du mystère, toujours très pratique. De ce fait, une telle démarche s'inscrit dans une théologie particulière qu'on peut appeler protestante libérale, bien sûr. Mais beaucoup peuvent voir dans cette démarche la promotion d'une idéologie particulière qui vise à utiliser le texte biblique dans un sens propre à faire prévaloir la liberté du croyant sur l'obéissance aux dogmes que prévoit l'Église, qui a établi cet évangile comme texte canonique, le prétendant ainsi intouchable. Il est évident que le geste critique qui vise à chercher quelle idéologie sous-tend la résurrection selon l'évangile de Jean apparaîtra comme une exaction aux yeux de celles et ceux qui souhaitent défendre une idéologie de la pureté des textes et du témoignage chrétien. si aucun discours ne peut prétendre à la vérité pure, en être conscient et le dire fait toute la différence. Cela évite le mensonge et les contre-vérités. Les systèmes qui excluent cette diversité de points de vue sont toujours suspects, car ils prétendent connaître la vérité avant même de la chercher. Nous le voyons aujourd'hui dans l'exclusion des recherches qui pourraient mettre en doute la légitimité de pouvoirs autoritaires. En religion aussi, et peut-être plus qu'ailleurs, il y a des mots interdits. Dire qu'écrire un évangile est un acte politique, que les témoignages bibliques sont des œuvres humaines motivées par des intérêts communautaires et identitaires particuliers n'est pas si simple, en théologie non plus. Et on a tôt fait de taxer ces démarches de blasphème. Dans cette attitude critique, on reconnaît pourtant celle de Jésus lui-même par rapport à sa propre foi et à sa propre religion. Si l'on en croit les dires rassemblés et redistribués dans les récits des évangiles, il a une attitude critique par rapport aux pensées religieuses de son temps, par rapport à la lecture de la loi et des prophètes. Et il le fait pour mieux démasquer les intérêts et les pouvoirs qu'elles servent. Seule cette critique lui permet de découvrir comment vivre libre devant Dieu, malgré l'oppression et la marginalisation qu'organisent les pouvoirs de son temps. Il est le prophète de ceux que l'on met au banc de la société, et il a donc besoin de critiquer la façon que l'on a d'instrumentaliser le religieux dans son temps. À force de considérer la Bible comme un monument intouchable, on risquerait de la laisser à ceux qui veulent l'utiliser comme une arme de propagande pour soutenir leur propre idéologie. L'enseignement du Christ deviendrait alors lettre morte, dans un tombeau scellé à tout jamais par l'énorme pierre des institutions et des pouvoirs religieux ou temporels. Mais l'évangile de Jean construit le témoignage vivant qui fonde la communauté johannique et qui nous fonde encore aujourd'hui dans sa vie communautaire, dans sa vie spirituelle. Cela implique de faire avec le contexte et avec l'histoire à laquelle elle se rattache. Pourquoi raconter l'événement d'un tombeau retrouvé vide ? Cela semble aller de soi pour nous qui avons entendu 100 fois ces récits. Mais pourquoi raconter cela ainsi ? Comment un tel récit peut-il fonder une communauté ? Quel désir sous-tend cette façon de présenter la fin d'un maître ? Dans l'Antiquité, le récit des origines et des fins des grands personnages se présente comme aujourd'hui, comme des clés de compréhension de ce qu'il faut retenir de la doctrine que sous-tend le récit. Alors, d'un tombeau vide qui leur faisait problème, les communautés de disciples de Jésus en diaspora ont voulu faire un signe. Et ils ont donc pris ce motif si problématique pour qu'il devienne leur signe de ralliement. Sans doute le problème ne se posait-il pas de la même façon ou de façon aussi aiguë pour toutes les premières communautés de la voie qui étaient encore à Jérusalem et qui avaient intégré directement la violence d'une crucifixion et connaissaient le sort qu'on réservait au corps supplicié. Certainement pas de très grands tombeaux de pierre et plutôt la fosse commune. Le problème du tombeau n'a donc pas été d'emblée le cœur de leur récit sur l'enseignement de Jésus. Sa parole, son enseignement suffisait alors à faire lien entre lui et ses disciples, parce que les disciples avaient vu Jésus, l'avaient connu. Mais les communautés qui étaient contraintes à la diaspora, loin de Jérusalem, dans tout le bassin méditerranéen, et qui, pour beaucoup de ses membres, n'avaient pas connu Jésus, avaient d'autant plus besoin d'une topologie légendaire, comme dirait Alvax, à laquelle se raccrocher qu'ils étaient loin de Jérusalem et de la crucifixion, par le temps et par l'espace. Le tombeau vide devenait ainsi la fiction utile d'un pèlerinage utopique pour fixer un nouveau lieu d'origine de leur pensée et de leur foi. Quelque part en Palestine, un maître de sagesse était mort supplicié et avait laissé vide le tombeau qu'on lui avait prêté, défiant toutes les lois de l'existence humaine et défiant toutes les idéologies de son temps par l'affirmation d'une vie éternelle plus forte que la mort. Le génie du christianisme n'est pas d'avoir imaginé le tombeau de leur maître comme un mémorial, mais de l'avoir imaginé vide du corps du maître. Le tombeau vide est à la fois le lieu de la mémoire d'une communauté de disciples qui pourraient aller se recueillir sur la tombe de leur maître et à la fois le lieu où il est inutile d'aller se recueillir puisque le maître n'est plus dedans, mais partout, avec les disciples, en diaspora. La résurrection nous propose une nouvelle anthropologie, une nouvelle vision de l'être humain. L'évangile de Jean choisit des motifs qui relient Jésus au grand thème du judaïsme. Il inscrit donc Jésus dans l'histoire du salut. Et s'il semble s'inscrire toujours en faux contre ceux qu'il appelle les Juifs, on le voit très souvent dans l'Évangile, c'est pour mieux réinvestir l'héritage du judaïsme à travers l'enseignement de Jésus. Les Juifs dont parle Jean sont en fait les Judéens, ceux qui détiennent à Jérusalem le pouvoir sur toutes les synagogues de la diaspora et qui sont donc à l'origine des clivages qui animent alors les communautés juives pharisiennes et les communautés qui affirment que Jésus est le Christ, donc le Messie. Lire les Juifs comme une attaque chrétienne antisémite, comme cela a été fait idéologiquement à diverses reprises, est une aberration, puisque cette dénomination distingue deux courants théologiques au sein du même judaïsme. Mais certains idéologues n'ont pas hésité à faire ce grand écart. Parmi les symboles qui instituent la pensée johannique dans ce contexte, Jean choisit celui du tombeau prêté, ce tombeau prêté par Joseph d'Arimathie qui prête un tombeau. C'est le tombeau prêté aussi à Abraham pour ensevelir sa femme Sarah. Il choisit de situer la scène dans un jardin, autre fiction fondatrice dans laquelle se raconte la relation de la première humanité avec son Dieu. Mais le jardin est aussi ce mythe des commencements d'une genèse écrite après l'exil à Babylone et posant les bases d'une pensée juive, elle aussi, en diaspora, en exil. Jésus ressuscitant dans le jardin est ainsi institué comme un être divin préexistant à la création du monde, comme un écho au prologue du même évangile où Jésus est présenté comme le Verbe existant avant le commencement du temps. Parmi les différents courants juifs d'alors, cette compréhension de la figure de Jésus regroupe ceux que les autres juifs appellent les Nazoréens et qui vont devenir de plus en plus indésirables dans le paysage religieux. Jésus peint descendu du ciel aussi dans l'évangile de Jean, comme la manne du peuple de Dieu, autre allusion à l'histoire du salut selon l'histoire juive. Mais derrière lui, un vide propice à un nouveau langage pour la foi juive est laissé. Le tombeau devient aussi vide que le Saint des Saints, où deux hommes vont entrer et sortir avec des hésitations, comme Moïse et Aaron en leur temps, où deux anges vont se retrouver encadrant le lieu où Jésus gisait, comme les chérubins de l'Arche de l'Alliance qui encadraient et veillaient sur la loi dans l'Arche d'Alliance. Ici, c'est Jésus qui incarne cette loi et lui donne la vie, en laissant cet espace libre entre les deux chérubins Il laisse la vie s'inventer, se renouveler, être ressuscitée à nouveau. Cette théologie devait être insupportable pour les Juifs contemporains de la communauté johannique parce qu'elle faisait de Jésus le Messie tant attendu et apportait un salut incompréhensible pour ceux qui attendaient la réhabilitation du Temple et de ses rites à Jérusalem, le Temple ayant été, au moment où l'on écrit l'Évangile, détruit en 70. À eux aussi, les mots qu'utilisaient ces fameux Nazoréens donnaient des envies de meurtre. L'Évangile de Jean nous parle des menaces de mort qui pesaient sur la communauté johannique, qui avait osé écrire cet Évangile. L'hostilité se diffuse d'ailleurs partout dans ce témoignage d'une foi qui tente d'affirmer la force du langage contre l'idéologie des pouvoirs religieux. L'Évangile de Jean repose les questions philosophiques et métaphysiques qui animent toute la vie croyante et institue l'être humain en un être de parole qui témoigne de sa foi en Dieu sans autre pouvoir que celui de la pensée. Une foi désarmée, donc, en dénonçant les appétits des pouvoirs qui motivent les discours des pharisiens de son époque, il nous met dans le défi de nous aussi penser Dieu sans en faire un objet idéologique. L'Évangile de Jean raconte l'histoire d'une réinterprétation, l'histoire d'une conversion, d'une religion où l'attente du salut permettait de ne sauver que les intérêts de quelques-uns, à une religion dans laquelle le salut s'adresse à tout être humain qui se reconnaît enfant de Dieu. C'est l'histoire d'une nouvelle naissance pour une nouvelle humanité. Le tombeau vide de Jean transforme le sein des saints en un ventre d'où une nouvelle naissance est possible pour tout être humain. Et Marie-Madeleine, celle dont nous n'avons pas parlé ce matin et qui est pourtant si présente dans le récit, eh bien elle est cette accoucheuse, la maïoticienne, celle qui fait sortir la vie de ce tombeau devenu lieu de naissance. Elle va voir, appelle des témoins, puis revient, puis attend dans les larmes la naissance de ce sauveur qu'elle a peur d'avoir perdu. C'est en le reconnaissant, en se faisant nommer par lui, qu'elle verra sa propre naissance. Elle naîtra elle-même à une nouvelle vie, et elle comprendra alors ce qu'est ce salut pour elle. Ce matin, c'est le jour de la résurrection de Jésus. C'est le jour où il peut devenir le Christ pour chacun de nous, où nous pouvons nous engager dans cette voie du témoignage pour dire que même la parole désarmée, peut-être parole d'évangile, peut-être parole qui renouvelle le monde et qui renouvelle notre humanité. C'est le jour d'une nouvelle vie suscité par la foi. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 144 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager quelques annonces avec notre présidente du Conseil, Aurore.
Merci Béatrice. Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, à nouveau, joyeuse Pâques, mais on n'a pas fini de se le dire. Tu descends pas, tu restes là-haut?
Je peux descendre.
Hein? Parce que Béatrice vous l'a dit, elle a fait un marathon. Alors du coup, j'ai cherché un lièvre en chocolat, je n'ai pas trouvé. Hein? Mais tu as quasiment un lièvre pour te remercier du marathon que tu viens de faire. Oui, il sonne. Et puis, tu as vu, on a trois petites filles au premier rang. Alors il y a des vocations comme ça, moi j'y crois. Tu vois, une petite fille qui reçoit aussi un petit poussin et qui se dit, ce jour-là, j'ai décidé d'être pasteur. Voilà comment on crée les vocations. Mais le Saint-Esprit est là, il va pas tarder à redescendre à un moment donné d'ailleurs. Voilà, donc vraiment, grand merci à vous tous. Nous vous avons distribué en entrant, pour ceux qui ne viennent pas toutes les semaines, notre dernière feuille rose avec un dossier d'actualité puisqu'il s'agit de Jésus, fils éternel de Dieu ou fils du Dieu éternel. Et vous avez compris la prédication de Béatrice, ça reprend le même thème, cette importance de la liberté de conscience que nous avons.
Et la liberté d'étude.
La liberté d'étude et puis la capacité à dialoguer, parce que vous savez, en 1553, un d'entre nous s'était fait brûler sur le bûcher par Calvin, dont on parle beaucoup, hein, parce qu'il avait osé dire que Jésus était fils du Dieu éternel et non fils éternel de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment important, et nous avons écrit ce dossier en rappelant un verset, puisque ça nous arrive de citer des versets. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors vous avez un bouquet jaune et bleu, j'ai cherché toute la matinée une écharpe jaune, j'ai pas trouvé, mais imaginez-moi s'il vous plaît en jaune et bleu, parce que nous avons envie de paix dans ce monde, Et c'est pour ça que nous sommes tous ici à l'oratoire du Louvre, et notamment le conseil presbytéral. Vous savez que l'église est gérée uniquement par des bénévoles qui font partie du conseil presbytéral, et c'est important de le rappeler. Également, vous avez un journal auquel on tient beaucoup. Alors il y a un journal que vous connaissiez qui était Évangile et Liberté. Le motto d'Évangile et Liberté, c'était penser, croire et critiquer en toute liberté. Penser, croire et critiquer en toute liberté. Alors il y a un nouveau journal qui a pris la place de, qui a succédé à Évangile et Liberté. Son titre est extrêmement clair aussi, c'est Libre croyante, croyante ou croyant. Vous en avez quelques exemplaires à la librairie, parce qu'on offre des chocolats à Pâques, mais vous pouvez aussi offrir des livres. Donc nous avons un stand de librairie, et vous pouvez en prendre un en vous engageant, s'il vous plaît, à adhérer à cette association Libre Croyant. Et ça coûte 10 euros par an, et Béatrice fait partie.
Je suis juste la rédactrice en chef du journal, et je vous le recommande évidemment, parce qu'on y travaille beaucoup avec nos amis de Saint-Jean-du-Gard, notamment Christophe Cousinier, que vous avez pu entendre ici en prédication et aussi au brunch libéral. Et donc nous essayons de faire vivre cette théologie qui exerce sa possibilité d'avoir une étude critique des textes qui nous permettent d'y voir plus clair, et peut-être parfois de ne pas faire dire aux textes ce que l'on voudrait bien qu'ils nous disent.
Libre croyant, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Voilà, en quelques mots, dimanche prochain, toi cette semaine tu pars en vacances, après ton marathon, tu vas manger du chocolat, et c'est Gilles Castelnau qui est là, qui a écrit aussi un article sur Jésus, fils exemplaire de Dieu, et fils du Dieu exemplaire aussi d'ailleurs. Donc Gilles Castelnau sera parmi nous dimanche prochain. Également nos deux prochains invités pour information, puisque nous parlons souvent d'interreligieux ici et nous y tenons. Nous avons l'imam Fakir Korcher qui viendra prêcher le 11 mai. Nous avions eu le rabbin Josué Ferreira qui est venu en février dernier. L'interreligieux est fondamental. Vraiment, on y croit beaucoup. Et donc, venez l'accueillir et l'écouter le 11 mai. Et puis, notre prochain, après Gilles Castelnau, après Farker Korshan, ça sera le pasteur Marc Pernaud. Pour ceux qui l'ont connu, on est ravis que Marc revienne prêcher à l'oratoire. Donc, venez aussi nombreux le 15 juin l'accueillir. Voilà, et lui dire à quel point vous êtes heureux de le voir revenir aussi à l'oratoire. Et sachez que donc, Béatrice, qui est toute seule cette année, au 1er juillet sera rejoint par le pasteur Robert Philippoussi, qui sera donc le binôme de Béatrice à partir du 1er juillet 2025. Immense merci à tous, nous allons partager la scène tout à l'heure, peut-être quelques chocolats, on verra. Et puis, surtout, sachez qu'ici nous avons le don joyeux. Alors le jour de Pâques, voilà. Et pour que ça dure très très longtemps, parce que plus vous prenez de temps à écrire un chèque, ou par exemple au bénéfice de l'apérole, hein, c'est pas une plaisanterie, notre association s'appelle l'apérole comme le très très bon cocktail, voilà, à consommer avec modération. En revanche, le don joyeux, ne le consommez pas avec modération. Et sachez que ça peut durer longtemps parce qu'on a une chance extraordinaire. Nous avons Sarah Kim à l'orgue et nous avons un moyen de la prévenir quand la quête est terminée. Donc on peut la faire jouer très longtemps si vous le souhaitez. Merci infiniment. Merci de votre générosité et joyeuse Pâques.
nous louons Dieu. Éternel notre Dieu, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous invite à la prière. Éternel invité à cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te prions. Nous te remettons, Éternel, tous les sujets qui nous rendent malheureux aujourd'hui, qu'ils soient privés ou qu'ils soient collectifs. Éternel, nous te demandons ton soutien. Veille sur nous et permets que nous ne nous égarions pas. Veille sur nous et redonne-nous ta loi d'amour du prochain sans cesse, afin que nous puissions discerner dans les paroles si nombreuses qui claquent à nos oreilles, celles qui peuvent être entendues et humainement reçu. Éternel, nous te prions pour les États qui sont sous la coupe et la domination d'être sans conscience. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas craintifs devant cette violence, cette brutalité de ton et ces actions impossibles à supporter. Éternel, permets que nous soyons debout devant cette violence
et que nous puissions y résister par tout ce que tu nous as appris d'amitié, d'intelligence, d'amour mutuel. Que nous soyons capables de penser ta présence dans ce monde afin que nous puissions penser notre relation aux autres dans ce monde, dans la paix. Éternel, nous voulons te remettre les martyrs de la guerre. Nous te demandons ton soutien et ta bénédiction pour toutes les personnes qui meurent en ce moment même, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine et dans tous ces pays qu'on oublie comme s'ils n'étaient que quantité négligeable. Éternel, ouvre nos yeux et permets que nous soyons de ceux qui préparent des chemins pour toi dans ce monde. Nous te demandons de pouvoir continuer à écouter ta parole, à la propager librement, à pouvoir en discuter sans cesse et à ne jamais croire que nous détenons la vérité à nous seuls. Offre-nous toujours cette liberté et permets que le jour où nous serons comme le peuple qui murmure dans le désert à ne pas vouloir avancer, permets que nous soyons repris par toi et que nous reprenions courage pour prendre peut-être une voie plus difficile que celle qui se présente à nous trop facilement. Éternel, nous te demandons la vie ressuscitée en chacun. Permet à toutes celles et ceux qui ont le sentiment que la mort s'est insinuée dans leur vie, qu'ils puissent retrouver cette lumière de Pâques à l'intérieur d'eux, dans leur existence, chaque jour. Et ensemble, nous te disons avec confiance la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je rappelle que vous êtes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes ceux qui invitons, c'est le Christ lui-même qui vous invite à sa table. Et aucune institution dans le monde ne devrait avoir le droit d'en écarter quiconque. Venez, car tout est prêt pour vous. Je vous invite à vous mettre en cercle tout autour de ce temple, en faisant attention à prendre une seule ligne pour qu'on puisse donner la scène facilement en passant devant vous. Voilà, on peut aller jusqu'à l'entrée du temple, hein, n'hésitez pas. Voilà, alors il y a des lignes doubles un peu, hein. Je dirais même il y a des paquets. Alors est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ne soyez pas sur deux rangs parce que les personnes qui servent auront du mal à passer, voilà. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus, le crucifié. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est signe de la présence de Jésus, le ressuscité.
nous communions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter ensemble « À toi la gloire », les trois strophes. Si vous ne connaissez pas bien, vous allez voir, vous allez vite apprendre. Frères et sœurs, ce temps de culte s'achève, mais tout continue à l'extérieur. Vous aurez beaucoup à aimer, vous aurez beaucoup à annoncer de la paix de Dieu. Alors allez-y et soyez porteurs de cette résurrection dont nous parlent les évangiles. Soyez porteurs de la résurrection du Christ, qui est aussi votre résurrection. Vivez en ressuscité. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans sa grâce et dans son amour. Amen.